Regagnez vos places, les midis, c'est reparti et tout de suite, c'est l'heure du Point Culture de Nicolas Herbeau. Bonjour.
Bonjour Marie, bonjour à tous et à toutes. Est-ce que ça vous dit d'essayer de prendre du plaisir tous ensemble?
Oui.
Eh ben, c'est la réflexion que lance le Centre Pompidou dans le cadre de son programme New Assembly et qui investit à partir de demain et jusqu'au 15 juin le Grand Palais à Paris. Le Musée National d'Art Moderne, vous savez, va fermer pour travaux et il débute ainsi sa nouvelle vie nomade, donc au Grand Palais d'été. Alors comment les espaces publics et donc les musées peuvent-ils favoriser des assemblées plus inclusives? Comment, à la jonction de l'architecture, des arts et du design, peut-on atteindre une forme de bonheur commun? Quelle expérience est proposée au Grand Palais? On en discute ce midi avec l'un des protagonistes de ce Fun Palace. Bonjour Emmanuel Ecoccia.
Bonjour Nicolas Herbeau.
Vous êtes philosophe, on vous connaît notamment pour vos ouvrages et vos réflexions sur les images, les objets, la maison, les plantes aussi, et sur la métamorphose. C'est parce que le Centre Pompidou doit justement changer de forme pendant ses travaux, se réinventer, qu'ils ont pensé à vous pour ce premier rendez-vous?
En réalité, c'est une collaboration qui a sa deuxième partie. On avait déjà fait il y a 2 ans un festival ensemble qui portait sur les thèmes de l'assemblée, comment produire des assemblages, des assemblées communes. Et il y a 2 ans, ça portait sur l'espace domestique, qui sont les premiers laboratoires où on s'associe à d'autres corps, à d'autres personnes, d'autres formes de vie. Et cette année, on a voulu spécifier la question et réfléchir sur comment ces associations, ces assemblages peuvent produire du plaisir.
C'est ça le thème principal que vous avez choisi, c'est celui du plaisir collectif, du plaisir tous ensemble. Ça veut dire, Emmanuel Ecoccia, que dans la vraie vie, en quelque sorte, il n'existe plus vraiment ce plaisir?
Ça veut dire que, tout d'abord, dans la plupart des cas, on fait partie de communautés ou d'associations, d'assemblées par nécessité, par obligation, pour des buts pratiques. Mais on réfléchit très peu, peut-être, notamment sur qu'est-ce que ça veut dire produire un plaisir ensemble et comment transformer cette production en quelque chose qui est la nature même de la communauté qu'on veut produire. Et d'une certaine manière, le festival voudrait inviter à réfléchir sur le fait qu'il ne suffit pas d'être ensemble pour être heureux, il suffit que cette communauté vise activement, consciemment et avec plein d'imagination une forme partageable de bonheur et de plaisir.
Donc il faut créer un événement spécifique et c'est ce que vous faites pendant 10 jours puisque le Grand Palais va se transformer en quelque sorte en laboratoire vivant. Vous avez travaillé avec les designers italiens du studio Ossidiana qui ont créé un soft palace en feutre rose. Il y a aussi l'œuvre immersive de l'artiste américaine Alice Bucknell. Et puis vos rencontres justement sur ce thème du plaisir ensemble. Qu'est-ce que ces autres artistes, ces autres créateurs permettent justement dans cette quête du plaisir ensemble?
Tout d'abord, les contextes sont importants. C'est un musée. Et c'est un musée qui a été construit en suivant un modèle spécifique qui était les modèles que Cedric Price, un architecte britannique du siècle dernier, avait appelé les Fun Palace, donc littéralement le palais du plaisir, les palais du divertissement. Et c'était un projet expérimental de musée dont la forme architecturale devait à la fois être extrêmement dynamique, bouger, se transformer, se métamorphoser en fonction des exigences de personnes. Donc, tout d'abord, l'idée, c'est de revenir à cette intuition originaire de comment faire du musée un espace où on reconstruit les mondes, on apprend, mais on apprend aussi à produire ce plaisir commun. Ça, c'est les contextes principaux. On a invité ces duos de designers, donc Studio Ossidiana, qui ont beaucoup travaillé dans les passés un peu sur le thème du playground. En fait, si on y réfléchit, il y a beaucoup d'architecture pour les plaisirs des enfants, donc justement les playgrounds, mais très peu ou très moins développé, disons, sur les parcs de projets, mais aussi de spéculation sur qu'est-ce que serait un espace pour les partages du plaisir. Dans les deux sens, tout d'abord un espace, on est habitué à se nourrir d'entertainment à travers nos smartphones. Mais qu'est-ce que serait un plaisir qui existe dans un espace, qui prend la forme d'un palais, qui prend la forme de la matière, d'un paysage. Qu'est-ce que c'est les plaisirs qui se transforment en paysage. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi l'idée de dépasser l'idée d'entertainment. Au fond, les plaisirs partagés a pris la forme surtout du divertissement, du temps qui doit passer et qui doit nous libérer de l'angoisse du temps passé au travail ou de l'angoisse qui nous traverse. Comment penser à un plaisir qui soit pas juste un divertissement, mais qui soit la construction d'un univers collectif. Et c'est pour ça qu'on a voulu appeler Alice Bucknell, qui a produit beaucoup de jeux vidéo. Et l'idée, c'était double. Tout d'abord, d'indiquer que le jeu vidéo est un espace de ce type-là. Notamment, les jeux vidéo sont devenus depuis un moment une espèce de place publique où les gens se rencontrent pour partager un moment de plaisir. Mais aussi, c'est intéressant comme forme d'art parce que ça implique à chaque fois la construction d'un univers. Et ça nous fait comprendre que le plaisir partagé est toujours la construction d'un monde différent, d'un monde qui n'est pas juste de l'ordre d'une émotion ou d'un spectacle, et une forme de vie, un confort, un paysage dans lequel on doit s'immerger.
C'est aussi une façon de lutter, si je vous comprends bien, Emmanuel Ekocha, contre la solitude du monde numérique, la solitude aussi, parfois, de la vie quotidienne.
Tout à fait. Et de ce point de vue, à la fois, les jeux vidéo sont déjà devenus ça, parce que ce sont vraiment des lieux de rencontre où beaucoup de personnes passent du temps en commun. Mais les musées aussi ont un rôle à jouer. Les musées ont été, dans les derniers siècles, un espace pour repenser la ville, pour faire évoluer la ville et pour rassembler dans une ville tout ce qu'il y a de plus beau, de plus intéressant, de plus joyeux et de tout ce que, non seulement se réfère au passé, mais tout ce que permet d'imaginer un futur commun. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi les musées parce que les musées, je pense, ont un rôle important à jouer pour retrouver, repenser l'être ensemble, mais qui n'est pas juste, qui ne doit pas être adopté en tant que tel. Encore une fois, il ne suffit pas juste d'être ensemble pour être heureux. Il faut que cet être ensemble soit façonné d'une certaine manière. Il faut que c'est nourri de culture, de différentes stimulations, des arts notamment, pour que cet être ensemble puisse devenir quelque chose de constructif.
Et je suis sûr que vous prendrez du plaisir, Emmanuel Ekocha, en nous accueillant donc au Grand Palais du 6 au 15 juin prochain avec le Fun Palace du Centre Pompidou. Merci d'avoir été ce midi avec nous sur France Culture.
Merci à vous et au revoir.
Si vous n'êtes pas là des prix littéraires, en voici un nouveau et son tout premier lauréat.
Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a décerné hier pour la première fois le prix du Quai d'Orsay, bien appelé, bien nommé. Ce sont les 150 agents du Quai d'Orsay qui avaient sélectionné les finalistes avant qu'un jury plus restreint désigne le vainqueur avec le souhait, je cite, que d'autres que nous-mêmes parlent de ce que nous, diplomates, faisons et sommes. Donc, fin du suspense, c'est Omar Youssef Souleyman qui a été récompensé pour son livre « L'Arabe qui sourit » aux éditions Flammarion. Il narre le retour fantasmé d'un homme en Syrie après une période d'exil, une histoire qui partage bien des points communs avec la vie de l'auteur qui a fui ce pays en 2012 pour rejoindre la France, dont il a appris la langue dans laquelle il écrit désormais.
Des réalisateurs empêchés de promouvoir leur documentaire oscarisé en Cisjordanie.
Et on les connaît bien, ces réalisateurs. Deux d'entre eux, donc ceux du documentaire No Other Land, récompensé à Cannes cette année, ont été stoppés dans leur itinéraire promotionnel par l'armée israélienne. Yuval Abraham et Bazel Adra voulaient entrer dans la zone de Massafer Yatta en compagnie de journalistes pour corroborer l'occupation israélienne racontée dans leur documentaire. Yuval Abraham souhaitait ainsi montrer que la réalité dépeinte à travers leur film existe bel et bien. Les forces israéliennes ont justifié cette interdiction par le maintien de l'ordre dans la région. Je vous rappelle qu'en mars dernier, un troisième co-réalisateur de No Other Land avait déjà été arrêté par la police israélienne avant d'être relâché.
Merci Nicolas et on se retrouve demain.
À demain.
À demain. En attendant, il est 13h et vous écoutez les Midi de Culture.